21h à Ouagadougou et à Conakry, 22h à Paris. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Terrible attentat à Paris contre le journal Charlie Hebdo. 10 journalistes et 2 policiers sont morts suite à une fusillade. Nous entendrons plusieurs réactions à Paris, mais aussi en Afrique.
C'est une tragédie pour la profession de journaliste, une catastrophe pour le satirique que nous sommes, une honte pour le musulman que je suis.
Souleymane Diallo du journal satirique guinéen Le Lynx.
On se rend compte que notre travail n'est toujours pas bien compris et en même temps on se dit que c'est la confirmation qu'il faut continuer, quitte à prendre des risques.
Le caricaturiste burkinabé Damien Glaise. Nous évoquerons aussi au Nigeria l'appel au secours des gouverneurs de 3 États particulièrement exposés aux attaques terroristes du groupe Boko Haram. Et enfin, toujours au Nigeria, une bonne nouvelle. Enfin, Shell dédommage les victimes de la pollution pétrolière de 2008. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, il n'y aura pas de délai supplémentaire pour permettre au FDLR de désarmer. Propos tenus ce mercredi à Kinshasa par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. On écoute Martin Kobler.
La première priorité, c'est maintenant vraiment le combat et les actions, les opérations militaires contre les FDLR. Nous avons eu le délai de 2 janvier et nous avons eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité dans les dernières semaines. C'était un processus qui n'était pas crédible, qui n'était pas sincère, et le processus, selon notre avis, du désarmement volontaire des 6 mois, c'était très très généreux, a produit 357 combattants qui se sont rendus avec leurs dépendants, et c'est définitivement pas suffisant.
Et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Le chef de Boko Haram menace de mener au Cameroun des attaques aussi violentes qu'au Nigeria. Dans une vidéo postée le 5 janvier sur YouTube, Aboubakar Shekau met le président camerounais en garde, Paul Biya, si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, tu vas avoir droit au même sort que le Nigeria. Tes soldats ne peuvent rien contre nous, prévient le djihadiste nigérien. Des heurts ont éclaté aujourd'hui à Conakry, la capitale guinéenne, entre forces de sécurité et militants de l'opposition venus assister à un meeting. C'est ce que rapporte un journaliste de l'AFP et des témoins. L'opposition accuse le pouvoir de répression systématique. L'attentat contre Charlie Hebdo en France, la rédaction de l'hebdomadaire satirique, a été la cible d'une fusillade aujourd'hui à Paris. Une tragédie qui a fait 12 morts et 11 blessés, dont 4 graves, des islamistes radicaux qui avaient promis de punir le journal pour avoir publié en 2006 des caricatures du prophète Mahomet, au Caire. La Ligue arabe a condamné avec force cette attaque meurtrière. L'institution Al-Azhar, autorité de l'islam sunnite, a déploré un acte contre l'islam. L'Arabie saoudite a aussi dénoncé un acte lâche rejeté par l'islam. Les Émirats arabes unis, les États-Unis, Bahreïn, la Jordanie et l'Égypte se disent aux côtés de la France face au terrorisme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Attentat à la voiture piégée devant une académie de police à Sanaa, la capitale du Yémen. Bilan au moins 30 morts et 40 blessés selon les autorités locales. La milice chiite qui contrôle Sanaa et d'autres régions du pays a condamné l'attaque qui n'a pas encore été revendiquée. En Turquie, un groupe d'extrême gauche a revendiqué l'attentat suicide d'hier à Istanbul qui a coûté la vie à un policier et blessé un autre. Le parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple a dit sur son site internet que l'attaque est en représailles à la mort l'an dernier d'un adolescent de 15 ans qui avait été frappé à la tête en 2013 lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Enfin, on connaît la date de l'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Ce sera le 1er avril prochain. La date a été annoncée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. L'adhésion à la CPI permettra aux Palestiniens de porter des accusations de crimes de guerre contre Israël, mais les Palestiniens eux-mêmes pourraient en faire l'objet. La démarche du président Mahmoud Abbas a été sévèrement critiqué par Israël qui a annoncé le gel de 125 millions de dollars d'impôts prélevés par l'État hébreu au profit de l'autorité palestinienne. Vous écoutez VOA Afrique, votre radio. Restez avec nous, Sahel Plus, c'est maintenant. Et Claire Morin-Gibourg est dans ce studio. Bonsoir Claire.
Merci beaucoup Jean-Roger. Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous consacrons l'essentiel de l'émission aujourd'hui à ce terrible attentat qui a eu lieu à Paris contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Deux hommes lourdement armés ont ouvert le feu en pleine conférence de rédaction, tuant 10 journalistes et caricaturistes du journal. Deux policiers ont également été abattus. Une journaliste présente qui a échappé au carnage a témoigné que les deux hommes se réclamaient d'Al-Qaïda. Un choc terrible pour l'ensemble de la presse française et internationale. Idriss Fall a joint Alexandra Schwarzerbrog du journal Libération à Paris.
On est à la fois sidéré, horrifié, indigné et déterminé plus que jamais à défendre la liberté d'expression. Et là, on est tous mobilisés pour essayer de faire le plus beau journal possible demain pour rendre hommage à Charlie Hebdo et à la liberté d'expression. Et je crois que tous les patrons de presse en France sont en train d'écrire un texte commun pour justement rappeler leur attachement plus que jamais à la liberté d'expression.
Est-ce que vous pensez que c'est lié à la reproduction des fameuses caricatures du prophète Mohammed ?
En toile de fond, il y a sans doute un lien, bien sûr, puisque Charlie Hebdo, c'est pas un journal comme les autres. Donc il y a sans doute un lien, mais maintenant c'est un peu tôt pour s'exprimer là-dessus, donc on n'en sait pas davantage.
La journaliste Alexandra Schwarzbrod du journal Libération à Paris. En Afrique aussi, les réactions sont nombreuses. Nathalie Barge a joint en Guinée Souleymane Diallo du journal satirique Le Lynx.
C'est une tragédie pour la profession de journaliste, une catastrophe pour le satirique que nous sommes, une honte pour le musulman que je suis. Je suis franchement bouleversé, d'autant plus que je connais un certain nombre de victimes que j'avais rencontrées à Gettysburg il y a quelques années. Et on a parlé satire en Europe, en Afrique, et comment développer cet aspect de la profession. Et si aujourd'hui nous avons 12 morts dans une seule rédaction, c'est vraiment une catastrophe. Je suis atterré. C'est inqualifiable, c'est ignoble. Je ne trouve pas le mot juste pour qualifier la tragédie. Je ne sais pas ce qu'on nous en veut. Mais de grâce, il faut qu'on résiste au terrorisme. Il faut qu'on dénonce le terrorisme, quel que soit le prix à payer.
Alors vous-même, justement, à votre rédaction, est-ce que vous pouvez opérer en toute tranquillité ?
Ben, on se donne ce devoir d'opérer en toute tranquillité, quel que soit par ailleurs ce qu'on pense en face. Il faut sortir la vérité où elle est, quelle que soit sa laideur. Eh bien, les confrères de Charlie Hebdo sont tombés victimes de cette conviction. Nous ferons notre devoir, quel que soit ce qui arrive.
Souleymane Diallo, du journal satirique Le Lynx, en Guinée. Au Burkina Faso, le caricaturiste Damien Glaise, du journal Jiji, le journal du jeudi à Ouagadougou, est aussi particulièrement touché.
Moi, j'y réagis presque de trois manières. Je réagis comme n'importe qui, évidemment très choqué, atterré par ce qui s'est passé. Quand on voit comment l'islamisme peut commettre de tels actes, maintenant, quasiment sur l'ensemble de la planète, on ne sait pas très très bien quoi dire et quoi faire. Deuxièmement, évidemment, je réagis comme dessinateur, puisque je pratique le même métier que la plupart des personnes qui ont été tuées à Charlie Hebdo, et on se rend compte que notre travail n'est toujours pas bien compris, et en même temps, on se dit que c'est la confirmation qu'il faut continuer, quitte à prendre des risques. Et puis troisièmement, évidemment, c'est plus à titre personnel, puisque je connaissais Charlie Hebdo, qui s'intéressait beaucoup aussi à l'Afrique, qui était déjà venu travailler au Burkina de façon ponctuelle. Et je pense à certaines personnes, notamment Tinius, que j'ai fréquenté il n'y a pas très longtemps et qui était venu à Ouagadougou pour faire pas mal de choses, notamment une exposition.
Donc c'est quand même quelque chose qui vous touche personnellement, hein, sur le plan professionnel.
Tout à fait, effectivement. Je crois que ça doit tous nous toucher. Et je crois que notamment en France actuellement, d'après les retours que j'ai, tout le monde se sent atterré, vraiment effondré par rapport à ce qui s'est passé, parce que ça veut dire qu'on est en sécurité nulle part, ça veut dire que la liberté d'expression n'est pas garantie, pas seulement dans des pays où on s'y attend avec des dictatures extrêmement autoritaires, mais y compris dans des pays démocratiques où il peut se passer toutes sortes de dérapages. Et puis ça permet aussi aux journalistes de se poser des questions, ça nous amène à relativiser et relativiser la progression de la liberté d'expression, notamment à travers la satire.
Vous dites que c'est dommage que certains n'ont pas compris le travail que vous faites. Est-ce que ça dit que tout le monde n'a pas le sens de l'humour ?
Tout le monde n'a pas forcément le sens de l'humour et tout le monde ne comprend pas forcément qu'on mélange l'actualité et l'humour. Il y a des gens qui ont parfois de l'humour en privé, mais qui ne comprennent pas que lorsqu'on parle politique, lorsqu'on parle intégrisme, qu'on ne puisse pas utiliser, selon eux, l'humour, alors que l'humour est une manière de faire passer des messages auprès de personnes qui, habituellement, ne réagissent pas à l'actualité. Donc c'est aussi une forme de provocation positive. Et voilà, c'est vrai qu'il faut le comprendre, c'est vrai que parfois ça apparaît comme de la moquerie, voire comme du blasphème, mais c'est pas toujours le cas.
Quelles sont les pressions auxquelles vous faites face en Afrique ?
Effectivement, on se disait toujours que les dessinateurs africains avaient théoriquement plus de problèmes que les autres, mais on voit qu'on meurt aussi en plein cœur de Paris. En Afrique, le dessin est assez peu répandu, en tout cas dans la partie francophone du continent, donc on a eu moins de dessinateurs tués, même s'il y a eu des dessinateurs tués en Libye, au moment de la guerre couplée entre la Sierra Leone et puis la crise au Libéria. Mais il y a aussi, évidemment, d'autres formes de dangers. Le politiquement correct, qui est très présent en Afrique sur certains sujets, notamment comme celui de la religion, qui a amené Charlie Hebdo à être détesté par certaines personnes. Et puis, parfois des pressions politiques. Il y a une grande culture du secret dans les sérails politiques africains qui font que c'est souvent difficile d'avoir des informations. Donc on essaie de faire passer ça par le dessin. Le dessin n'est pas toujours bien compris. Aussi du fait qu'on a une culture de la caricature qui est jeune, qui date des années 90, du fameux printemps de la presse, alors qu'en Europe, les caricatures ont plus d'un siècle.
Quel effet cela peut avoir sur un dessinateur comme vous en termes de travail ?
De toute façon, quand on est dessinateur, si on essaie d'imaginer quels sont les risques que l'on peut courir, on n'arrive pas forcément à les évaluer parce qu'on n'imagine pas forcément ce genre de drame. Et de toute façon, dans le métier de dessinateur, je crois qu'il faut de l'inconscience. Il ne faut pas chercher à réfléchir puisqu'on est dans une certaine forme d'outrance, d'exagération qui est totalement intégré dans le concept de caricature, on ne va pas commencer à retenir notre plume, sinon il vaut mieux arrêter. Donc évidemment, nous, on va y aller. On va faire beaucoup de dessins sur cette affaire, sur des portails où on va essayer de leur rendre hommage aux dessinateurs, et puis on va essayer de faire des dessins tels qu'ils les auraient fait eux-mêmes. Et on sait que Charlie Hebdo, c'était de la caricature extrêmement corrosive. Donc ce n'est pas le moment pour nous de nous brimer ou d'être refroidis par ces événements.
Le caricaturiste burkinabé Damien Glaise, au micro de Bagassi Koura. Nous sommes au Nigeria pour la dernière partie de l'émission. Trois des États nigérians les plus exposés aux attaques des islamistes de Boko Haram viennent de lancer un véritable SOS. Leurs gouverneurs respectifs demandent au président Goodluck Jonathan de renforcer drastiquement la sécurité en prévision de la présidentielle du mois prochain. Les précisions de Michel Joseph.
Les Nigérians se rendront aux urnes le 14 février pour élire leur président. Les gouverneurs des États de Borno, de Yobe et d'Adamawa redoutent que l'instabilité empêche des millions de leurs administrés de prendre part au scrutin. Ils ont exprimé leur inquiétude au président Goodluck Jonathan hier à Abuja. Le gouverneur de Yobe, Ibrahim Gaydem, que cite l'agence Reuters, a dit à la presse que ses homologues et lui ont appelé le chef de l'État nigérian à déployer des soldats et des équipements militaires supplémentaires pour stabiliser la situation. Pas de réponse officielle de la présidence, mais selon une source que cite l'agence Reuters, le président Jonathan a accepté le principe d'envoyer des renforts. Selon la commission électorale nigériane, plus d'un million de personnes déplacées par les violences dans le nord-est du pays ne seront pas en mesure de retourner chez elles voter dans les circonstances actuelles. Le Parlement envisage de modifier la loi pour leur permettre de se rendre aux urnes là où elles se trouvent.
Nigeria toujours, la filiale du géant pétrolier Royal Dutch Shell a décidé de dédommager à hauteur de 84 millions de dollars une communauté nigériane touchée par deux graves fuites de pétrole fin 2008. Un accord à l'amiable entre la compagnie pétrolière et la communauté de pêcheurs victimes de la pollution a été annoncé ce mercredi. Henri Francisque.
Shell Petroleum Development Company of Nigeria, la SPDC, va verser 63 millions de dollars à 15 600 personnes, soit plus de 3 000 dollars par personne, et 36 millions de dollars au profit de l'ensemble de la communauté Bodo, qui regroupe des villages vivant principalement de la pêche. L'entreprise va aussi procéder au nettoyage de la région, sous le regard d'un ex-diplomate des Pays-Bas au Nigeria. La pollution remonte à environ 6 ans dans la région du delta du Niger, au sud du Nigeria, provoquée par 2 fuites sur un oléoduc après une défaillance. Le groupe néerlando-britannique avait concédé en novembre dernier que la fuite avait été plus sérieuse que ce qui avait été estimé au départ, après des pressions exercées par des ONG comme Amnesty International. Un procès était prévu cette année au Royaume-Uni, à la suite d'une plainte portée contre Shell par les Bodos. Mutyu Sunmonu, directeur général de la SPDC, a déclaré que le groupe pétrolier a toujours voulu dédommager la communauté équitablement. Il s'est dit ravi d'avoir trouvé un accord. Quant à l'avocat des plaignants, Maître Martin Day, il a averti que même si ses clients sont heureux de la décision de Shell, il était décevant d'avoir dû attendre 6 ans pour que Shell prenne cette affaire au sérieux et reconnaisse la vraie nature des dégâts causés par ces fuites sur l'environnement et ceux qui en dépendent pour vivre.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation Issia Kaba, à la technique Daniel Crofton, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Barbara Hendricks et son aria Bacchanas Basilieras numéro 5. Barbara Hendricks a été la marraine en octobre dernier d'un concert hommage à Daniel Pearl, la musique plus forte que la haine. Daniel Pearl, journaliste au Wall Street Journal, avait été pris en otage et assassiné par des membres d'Al-Qaïda en 2002. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.